L'Église en Chine est tiraillée. Tiraillée entre d'une part un gouvernement qui, depuis la République populaire de 1949, veut avoir la main mise sur la religion, quelle qu'elle soit, et d'autre part la population chrétienne, avide de sens, disposée à reconnaître l'autorité de l'Église universelle, mais à qui le pouvoir politique ne laisse pas facilement la possibilité de le faire. L'association patriotique catholique, tenue par le gouvernement, continue donc de nommer prêtres et évêques illégitimes, sans obéir au Vatican. Sur place, la principale préoccupation des missionnaires est donc de travailler pour l'unification de l'Église chinoise. C'est ce qu'a fait le père Georges Colomb pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il déplore l'entêtement du gouvernement chinois, mais se réjouit de la vitalité de la foi chrétienne en Chine.
Je pense que dans beaucoup de domaines, la Chine a changé. C'est un secret pour personne que le gouvernement chinois a greffé dans un système socialiste, un système collectiviste, si vous voulez, a greffé une économie de marché qui a donné ses fruits. Avec tous les problèmes qu'il y a par ailleurs, bien sûr de chômage, des problèmes sociaux qui sont très nombreux en Chine, quand même la Chine est devenue un grand pays. Il faudrait avoir des pots de banane devant les yeux pour ne pas s'en rendre compte, y compris une puissance financière. Donc ça, c'est un fait. Et alors, qu'est-ce qui reste pour dire qu'on est un pays socialiste quand on est comme ça? Quand on adopte l'économie de marché, c'est tout à fait contradictoire avec la théorie socialiste. Or, le gouvernement ne peut pas se contredire, parce que sa légitimité repose, la légitimité du Parti communiste repose justement sur le dogme quand même du socialisme. Or, le socialisme, c'est quand même pas l'économie de marché, jusqu'à preuve du contraire. Alors, les Chinois appellent ça le socialisme à la chinoise. Ça fait sourire. C'est le capitalisme, en fait, maquillé avec quelques petits drapeaux rouges, comme ça, au carrefour des rues. Donc, si vous voulez, il me semble que la politique religieuse est le domaine où on peut dire, voyez, nous sommes bien les communistes. Voyez, nous contrôlons l'Église. Il n'y a pas de nomination d'évêque qui soit faite par quiconque, par nous. Un petit peu comme la politique étrangère, vous voyez, les relations avec Taïwan, les relations avec les problèmes au Tibet. Tout ça, le gouvernement, c'est pour lui l'occasion d'affirmer son autorité et en quelque sorte de montrer sa légitimité socialiste, entre guillemets. Voyez, c'est l'explication que je donne. Enfin, l'Église est présente dans la société chinoise et il y a des gens qui n'étaient pas chrétiens qui le deviennent. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui se convertissent. Tout n'est pas négatif. Il faut faire attention quand on parle de la Chine. On a tendance à tout voir en noir. Alors, tout n'est pas négatif. Il y a des gros problèmes, bien sûr, qui sont à la mesure des grands problèmes, comme la Chine est un grand pays. Mais il ne faut pas non plus passer son temps à larmoyer parce qu'il y a aussi des signes qui sont tout à fait positifs. Et parmi eux, et bien la conversion de nombreuses personnes. Alors, en ce qui concerne notre Église, traditionnellement, les catholiques chinois étaient à la campagne. Pourquoi ? Parce que en Chine, notre Église a été persécutée pendant des siècles. Il y a des régions où il n'y a pas eu de prêtres pendant des dizaines d'années, voire une centaine d'années. Ce sont les chrétiens eux-mêmes, et notamment les vierges consacrées. Sainte Agathe, notamment, qui fait partie des martyrs chinois canonisés par le pape Jean-Paul II, vous savez, en octobre 2000. Ce sont ces vierges consacrées qui ont continué à animer les communautés chrétiennes, les familles, visitant les familles. La foi s'est transmise d'une génération à l'autre par les parents, par la prière en famille. C'est très, très important, ça. Alors, vous voyez, c'est ce qui éclate un peu aujourd'hui avec l'évolution de la société chinoise. D'ailleurs, c'est pas propre à la Chine, c'est valable aussi en Europe. Donc, si vous voulez, la campagne est restée à cause des persécutions pendant très longtemps, le lieu où il y avait les communautés chrétiennes. Donc aujourd'hui encore, il y a énormément de chrétiens dans les campagnes. Prenez par exemple dans la région du Yunnan, où il y a des minorités ethniques très nombreuses. Le Yunnan est une province où vous avez à peu près 24 minorités ethniques. Vous avez des communautés chrétiennes tibétaines ou lissous, qui n'ont pas la visite du prêtre, peut-être une fois par an. Mais tous les dimanches, la cloche sonne dans la petite église en bois, très modeste, et les gens viennent. Et les gens viennent et parfois ils font des kilomètres à pied pour venir. Alors bien sûr, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de liturgie eucharistique, il n'y a pas de communion au corps du Christ, mais les chrétiens sont là. Alors on se rassemble, on chante d'abord, et ensuite on écoute la parole de Dieu. Et le Rui Chang, c'est-à-dire le chef de la communauté, fait une petite homélie, un petit commentaire, si vous voulez, cette parole, comme il peut. Et puis on termine par un chant à Marie, généralement, vous voyez. Eh bien, vous voyez, c'est magnifique ça. Et je crois que ça devrait nous inspirer, alors je parle pour la France là, il y a des régions en France aujourd'hui où il y a de nombreuses dans les diocèses de province où il n'y a plus de prêtres. C'est un secret pour personne. Donc on a rassemblé ce qu'on appelait des paroisses autrefois. C'est devenu des relais paroissiaux. Mais il faudrait, à mon avis, c'est opinion personnelle, bien sûr, il est bon de se rassembler pour la messe. C'est la capitale. La messe, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, comme vous le savez. Mais lorsque ce n'est pas possible, eh bien, il faut laisser aux chrétiens la possibilité, et les former pour cela, de se rassembler. Parce que là, l'Église, avant d'être une réalité ecclésiale, c'est une réalité humaine, c'est une réalité sociale. Et l'évangélisation, ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par la communauté qui, le dimanche, dans le petit village où il n'y a pas de messe, se rassemble. On sonne la cloche, les gens entendent. Tiens, les chrétiens se rassemblent, ils prient. Et on prie. On fait ce qu'on peut, mais on prie, même quand il n'y a pas de prêtre. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que nos églises soient fermées, il ne faut pas que nos églises restent des musées, uniquement ouverts l'été quand il y a des touristes, pour leur faire visiter la beauté de nos églises romanes ou de nos cathédrales gothiques. Voyez, alors je crois que ça peut nous inspirer. Vous savez, la vie missionnaire est très intéressante parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs, quand on voit comment vivent des communautés pendant des dizaines d'années sans prêtres, et quand on voit qu'elles grandissent, eh bien, on peut en tirer des leçons, y compris pour nous en Europe. Alors, on fait des très bonnes choses en France, hein, loin de moi, il faut tout chambouler. D'ailleurs, la dernière conférence épiscopale, on a parlé. Hein, quand les chrétiens ne peuvent pas aller, il faut qu'ils se rassemblent quand même. Mais ça, il faut l'encourager. Bon, ben, le curé de la paroisse, il ne peut pas aller partout. Quand on a 40 clochers, on ne peut pas dire 40 messes le dimanche, c'est bien évident. Hein. Donc, ben, il peut au moins envoyer son homélie aux responsables des différentes petites communautés. Et quand la communauté se rassemble, bien, il y a un enseignement qui suit l'évangile et qui peut être nourrissant au plan spirituel, voyez. Vous voyez, comme quoi la Chine nous fait passer à la France. Chez nous, vous savez, en Europe, en France en tout cas, on dit, oh, il y a tant de chrétiens, bon, 60-80% de chrétiens en France, baptisés, et puis après ça, on dit, oui, mais seulement il y a 5% ou 10% de pratiquants. Ça, en Chine, ça ne marche pas comme ça. Les chrétiens sont des gens qui ont le désir de se retrouver. Pourquoi ? Parce qu'ils constituent une minorité. Et quand on constitue une minorité, eh ben, on a besoin de se rassembler. Ça, c'est très fort. Parce qu'on sent qu'on est dans un environnement religieux, où la religion dominante n'est pas la foi catholique, la foi chrétienne. Hein, c'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, c'est autre chose. Vous voyez, c'est l'islam. Et donc, on a besoin de se retrouver. Parce qu'on sent très bien que quand on est seul, ben, on est plus fragile. Quand on est seul, on risque de perdre la foi. Vous voyez. Alors, donc, c'est extrêmement important, ça, de se retrouver ensemble.